L'existence des non-vaisseaux accroît la possibilité de détruire des planètes entières sans représailles possibles. On peut lancer contre une planète un gros corps céleste, astéroïde ou autre. On peut en dresser les habitants les uns contre les autres par des moyens de subversion sexuelle et les armer pour qu'ils s'autodétruisent. C'est cette dernière technique que les honorés matriarches semblent privilégier. Analyse du Bene Gesserit. De la cour où il se trouvait, et même lorsqu'il n'en avait pas l'air, Duncan Idaho gardait son attention fixée sur les personnes qu'il observait d'en haut. Il y avait d'abord Patrine, naturellement. Mais Patrine ne comptait pas vraiment. C'était surtout les deux révérendes mères sur l'autre terrasse qui l'intéressaient. En voyant Lucille, il s'était dit « c'est la nouvelle ». Et cette pensée avait fait naître en lui une excitation qu'il avait noyée dans un surcroît d'exercice. Il acheva les trois premières séries de mouvements récréatifs que Miles Tegg avait ordonnés, vaguement conscient du fait que Patrine ferait son rapport sur leur exécution parfaite. Duncan aimait bien Tegg et le vieux Patrine. Et il sentait que ce sentiment était réciproque dans les deux cas. Mais cette nouvelle révérende mère, sa présence indiquait des changements intéressants. En premier lieu, elle était plus jeune que les autres. Ensuite, elle n'essayait pas de cacher la couleur de ses yeux, qui indiquait clairement son appartenance au Bene Gesserit. La première fois qu'il avait vu Shvangyu, Duncan avait tout de suite remarqué les verres de contact qui imitaient la pupille d'une personne non astreinte au mélange, avec un blanc légèrement injecté de sang. Il avait entendu dire par l'une des acolytes de la citadelle que les verres de Shvangyu corrigeaient également un astigmatisme toléré dans sa ligne génétique en contrepartie de qualités transmises à sa descendance. À l'époque, la plus grande partie de cette remarque avait été inintelligible à Duncan. Mais il avait fait des recherches à la bibliothèque de la citadelle, bien que les données accessibles fussent rares et mesurées dans ce domaine. Shvangyu elle-même éluda systématiquement ses questions sur le sujet, et le comportement de ses professeurs par la suite lui apprit qu'elle avait été très fâchée. C'était typique d'elle, cette manière de passer ses colères sur quelqu'un d'autre. Il était sûr que ce qui l'avait le plus fâché, c'était quand il lui avait demandé si elle était sa mère. Depuis longtemps maintenant, Duncan savait qu'il n'était pas comme tout le monde. Il y avait des endroits dans cette place forte, complexe du Bene Gesserit où il n'avait jamais le droit d'entrer. Dans certains cas, il avait découvert le moyen de passer outre aux interdictions. Souvent, il contemplait, par une fenêtre demeurée ouverte ou par d'épaisses baies de place, les sentinelles en faction devant les vastes espaces dégagés que pouvait prendre en enfilade une série de redoutes stratégiquement disposées. Miles Tegg lui-même lui avait expliqué l'importance de ses défenses. On appelait cette planète Gameux, mais autrefois elle était connue sous le nom de Giedi Prime. C'était un personnage nommé Gurney Halleck qui avait introduit ce changement. Tout cela cependant c'était de l'histoire ancienne, sans intérêt. Il ne restait plus de cette époque pré-danienne qu'une faible odeur d'huile amère dans le sol de la planète. Des millénaires de plantations spéciales étaient en train de modifier cela, avaient expliqué les professeurs de Duncan. Il en voyait une partie d'ici. L'endroit était entouré de forêts de conifères et autres essences classiques. Sans cesser d'épier les deux révérendes mères, Duncan exécuta une série de roues parfaites. Il fléchissait les muscles au moment où ses membres touchaient le sol, comme Tegg le lui avait appris. Tegg lui donnait également des leçons de défense planétaire. Gameux était entouré de monitors en orbite dont les équipages n'avaient pas le droit d'emmener leurs familles à bord. Les familles restaient en bas, garantes de la vigilance de ces gardiens orbitaux. Et parmi les vaisseaux qui croisaient dans l'espace, il y avait quelques non-vaisseaux absolument indétectables dont les équipages étaient composés exclusivement d'hommes dévoués au Bachar et de sœurs du Bene Gesserit. « Je n'aurais pas accepté cette charge », avait expliqué Tegg, « si la défense planétaire n'avait pas été entièrement placée sous mon commandement. » Duncan avait compris que la charge en question n'était autre que lui. La citadelle avait pour unique fonction de le protéger, et les monitors en orbite, y compris les non-vaisseaux, étaient là pour protéger la citadelle. Tout cela faisait partie d'une éducation militaire dont Duncan Idaho trouvait certains éléments curieusement familiers. Quand il s'agissait d'apprendre à organiser la défense d'une planète supposée vulnérable à des attaques venues de l'espace, Il savait dire immédiatement comment il fallait disposer les éléments de cette défense pour qu'elle soit le plus efficace. La tâche était globalement complexe, mais chaque secteur pouvait être défini et expliqué aisément. Il y avait par exemple la surveillance constante de l'atmosphère de Gameux et du sérum sanguin de ses habitants. Les docteurs souk à la solde du Bene Gesserit étaient partout. « Les maladies sont des armes », avait coutume de dire Miles Teg. « Notre défense contre les maladies doit être finement accordée. » Souvent, Teg était ironique à l'égard des mesures de défense passive. Il disait qu'elles étaient le produit d'une mentalité d'assiégé depuis longtemps reconnue, propre à engendrer des faiblesses mortelles. Chaque fois que Teg abordait un point d'instruction militaire, Duncan l'écoutait avec une attention profonde. La documentation de la bibliothèque, confirmée par Patrine, présentait le mentat Miles Teg comme l'un des plus grands commandants militaires du Bene Gesserit. Lorsque Patrine racontait ses campagnes en compagnie du Bachar, il en parlait toujours comme d'un héros. « Dans toute guerre, disait Miles Teg, la mobilité est la clé du succès. Ceux qui se laissent enfermer dans des forteresses, fussent-elles à l'échelle d'une planète entière, sont en dernier ressort éminemment vulnérables. » Teg n'avait pas une très haute opinion de la planète Gameux. Tu sais déjà que cet endroit s'appelait autrefois Giedi Prime. Les Harkonnen qui régnaient ici nous ont appris pas mal de choses. Nous avons une meilleure idée grâce à eux des abîmes d'horreur et de violence que l'être humain est capable d'atteindre. Tout en se remémorant ces choses, Duncan voyait que les deux révérendes mères qui l'observaient de la terrasse étaient en train de parler de lui. Est-ce vraiment pour moi que la nouvelle est là ? Il n'aimait pas qu'on l'observe, et il espérait que cette nouvelle révérende mère lui laisserait un peu de temps à lui. Elle n'avait pas l'air trop sévère, pas comme Shuang Yu. Tout en poursuivant ses exercices, Duncan les rythma par une litanie intérieure. « Maudit Shuang Yu, maudit Shuang Yu !» Il la détestait depuis l'âge de 9 ans, ce qui faisait 4 années maintenant. Elle ne devait même pas s'en rendre compte. Elle avait dû tout oublier de l'incident qui avait donné naissance à sa haine. À peine âgé de 9 ans, il avait réussi, déjouant la surveillance des gardes, à se faufiler dans l'un des passages souterrains qui conduisaient aux redoutes. Les murs du souterrain étaient humides et sentaient le moisi. Il avait eu juste le temps de regarder par les meurtrières de la redoute avant d'être surpris par un garde qui l'avait ramené à l'intérieur de la citadelle. Cette escapade avait été l'occasion d'un long sermon de Shuang Yu, figure alors lointaine et menaçante dont il fallait impérativement respecter les ordres. C'était encore l'image qu'il avait d'elle, bien qu'il eût appris entre-temps à reconnaître la voix de commandement du Bene Gesserit, cette subtile technique d'intonation qui permettait de faire plier la volonté d'une personne non protégée. « Il faut obéir à ses ordres. »« À cause de vous, » lui avait dit Shuang Yu, « tous ceux qui étaient de garde seront sévèrement punis. » C'était la partie la plus cruelle de ce sermon. Duncan aimait bien certains gardes, et il les incitait parfois à jouer ou à plaisanter avec lui. Et maintenant, à cause d'un caprice de sa part, ses amis allaient être punis. Duncan savait ce que ce mot voulait dire. « Maudit Shuang Yu, maudit Shuang Yu. » Après le sermon de la révérende mère, Duncan avait couru chez son instructrice en chef du moment, la révérende mère Tamalan, une autre vieille à la figure fripée, aux manières froides et hautaines, aux cheveux de neige sur un front étroit. Il lui avait demandé quelle était la punition des gardes. Tamalan l'avait un peu surpris en prenant une moue pensive, puis sa voix avait crissé comme du sable sur une surface de bois.
« Leur punition ? Tiens, tiens !»
Il se trouvait dans la petite salle de classe attenante à la grande salle de documentation, où Tamalan préparait chaque soir ses cours du lendemain. L'endroit était rempli de lecteurs de bulles et de bobines, ainsi que de toutes sortes d'appareils compliqués qui servaient à classer et à retrouver la documentation. Duncan le préférait de loin à la bibliothèque, mais il n'avait pas le droit d'aller y travailler tout seul. Partout, des brilleurs auto-suspendus diffusaient une lumière régulière. En l'entendant approcher, Tamalan s'était levée de l'endroit où elle préparait les cours qui lui étaient destinés.
« Il y a toujours, dans nos châtiments majeurs, quelque chose qui s'apparente à un festin sacrificiel », avait expliqué la révérende mère. « Tous ces gardes, naturellement, feront l'objet d'un châtiment majeur.
Un festin ? Avait répété Duncan, surpris.
Tamalan l'avait alors regardé droit dans les yeux. Ses dents, à la lumière des brilleurs, luisaient d'un éclat d'acier.
L'histoire s'est rarement montrée tendre envers ceux qui devaient être châtiés, murmura-t-elle.
Duncan avait scié à la mention du mot « histoire ». C'était un signe qu'il savait reconnaître chez Tamalan. Elle allait encore lui infliger une leçon fastidieuse.
« Les châtiments du Bene Gesserit ne s'oublient jamais », prononça la vieille révérende mère.
Duncan, les yeux rivés sur les lèvres parcheminées de Tamalan, sentit brusquement qu'elle parlait par expérience personnelle amère et qu'il allait sans doute apprendre quelque chose d'intéressant.
« Ils contiennent toujours une leçon à laquelle on ne peut pas échapper, » continua Tamalan, « et qui va au-delà de la simple douleur. »
Duncan était assis par terre à ses pieds. Vu sous cet angle, Tamalan était une silhouette sinistre, drapée de noir.
« Nos châtiments ne vont jamais jusqu'à la souffrance ultime, » expliqua-t-elle. « C'est l'apanage des révérendes mères quand elles franchissent la barrière de l'épice. »
Duncan hocha silencieusement la tête. La documentation de la bibliothèque faisait allusion à l'agonie de l'épice, une épreuve mystérieuse qu'il fallait surmonter pour devenir révérende mère.
« Nos punitions, » reprit Tamalan, « sont surtout pénibles du point de vue moral. Elles portent toujours sur la plus grande faiblesse de celui qui est puni. Ainsi, en renforçant cette faiblesse, nous faisons d'une pierre deux coups. »
Ces paroles avaient empli Duncan d'une vague terreur.
Qu'allait-elle faire à ses gardes ?
Il était incapable de parler, mais cela n'avait pas d'importance. Tamalan n'avait pas fini.
« Et chaque punition s'achève par un dessert, »
dit-elle en faisant claquer ses mains. Duncan plissa le front. « Un dessert ? »
Encore cette idée de festin. Comment un festin pouvait-il être une punition ?
« Ce n'est pas vraiment un festin, mais l'idée d'un festin, »
fit Tamalan comme si elle lisait ses pensées.
« Le dessert arrive comme quelque chose de totalement inattendu. Le puni se dit « Enfin, on m'a pardonné. Tu comprends ?»
Duncan secoua lentement la tête. Il ne comprenait pas du tout.
« C'est la douceur de l'instant qui compte, » reprit Tamalan en décrivant un cercle devant elle de ses doigts crochus. « Imagine que tu aies eu droit à tous les plats d'un festin pénible et qu'on te serve à la fin quelque chose que tu apprécies vraiment. Hélas !» Au moment où tu le savoures, survient le choc le plus pénible de tous. Tu t'aperçois, tu découvres, qu'il ne s'agit pas du tout de te faire plaisir en fin de compte. Bien au contraire, c'est là que la punition atteint son summum. Le Bene Gesserit t'a inculqué sa leçon.
Mais que va-t-elle faire à ses gardes ?
Ne put s'empêcher de crier Duncan.
Il m'est impossible de te dire en quoi consistera la punition de chacun. Cela ne m'intéresse pas de le savoir. Je peux seulement affirmer qu'elle sera différente dans chaque cas.
Tamalan avait refusé d'en dire plus. Elle était retournée à son travail en annonçant
« Nous continuerons demain à t'enseigner la manière de reconnaître la source des différents accents du galaque parlé. »
Personne d'autre, pas même Teg ni Patrine, n'avait voulu répondre à ces questions sur la nature des punitions infligées aux gardes. Ceux-ci, quand ils les avaient revus, avaient également refusé de parler.
Certains lui tournaient la tête et plus personne n'acceptait de plaisanter avec lui. Tous lui gardaient visiblement rancune de leur punition.
Maudite vieille, maudite Shvankyu.
C'était là la source de sa haine intense. Toutes les vieilles sorcières étaient pour lui responsables presque au même titre que Shvankyu.
Est-ce que cette jeune nouvelle allait être comme les vieilles?
Maudite Shvankyu.
Quand il avait demandé à Shvankyu pourquoi elle avait jugé nécessaire de punir les gardes, elle avait longuement réfléchi avant de répondre.
« Il y a du danger sur cette planète. Certaines personnes voudraient vous faire du mal. »
Duncan n'avait pas demandé pourquoi. C'était encore un domaine où ces questions ne recevaient jamais de réponse. Même Teg, dont la présence était directement liée à ce mystérieux danger, refusait d'en parler. Miles Teg était pourtant un mentat qui connaissait nécessairement un grand nombre de réponses. Souvent, Duncan voyait ses yeux briller tandis qu'il s'absorbait dans des pensées lointaines. Mais le mentat demeurait invariablement muet devant des questions telles que « Pourquoi sommes-nous sur Gameux ? Pourquoi toutes ces défenses ? Qui cherche à me faire du mal ? »
Qui sont mes parents ?
Tout ce qu'il avait pu tirer un jour de Miles Teg, c'était un « je ne peux pas te répondre » excédé. La bibliothèque n'avait pas non plus résolu ses problèmes. Il n'avait que 8 ans lorsqu'il avait essayé. Son instructrice principale était une révérende mère déchue, nommée Luran Jeassa. Peut-être pas aussi vieille que Shfangyu, mais d'un âge avancé quand même. Plus de 100 ans, sans aucun doute.